verrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous, nous allons reprendre sur le sujet de l'architecture qui est quand même central dans cette émission et nous avons parlé des modes de représentation et notamment dernièrement de l'IA, l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, l'émission, on va l'intituler « Maquette et jouets ». Alors, évidemment, le titre ne fait pas très architectural, quoique maquette, tout le monde est au courant. Mais c'était l'observation des réseaux, c'est toujours quelque chose d'intéressant, de regarder les réseaux sociaux, parce que c'est un reflet du temps et des humeurs du temps, avec tout le côté excessif que cela peut avoir et que tout le monde sait. Et on a ces temps-ci, enfin depuis quelques temps, une régression des images pour les maquettes. Et les explications pour cette modification, je pense qu'on peut la trouver dans l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, c'est assez fabuleux. En plus, on peut avoir ça avec ChatGPT gratuit. On a la génération d'images avec un croquis, avec une petite photo et un discours où on peut décrire et avoir ce que l'on veut. Donc, on peut avoir des images, on peut dire, proches du réel, de bâtiments, d'environnement, ce qui était dans les méthodes traditionnelles, avec les moyens, alors ne parlons pas du dessin, qui évidemment est assez compliqué à maîtriser et très professionnel, mais il y avait les logiciels comme Photoshop qui permettaient de faire ce qu'on appelle des rendus d'architecture approchant de la réalité. Mais alors maintenant, c'est démocratisé. Donc on ne peut pas distinguer le professionnel de l'amateur, on ne peut pas distinguer le compétent du fumiste. Et ça pose, bon, je ne sais pas si ça pose un problème, mais en tout cas, ça annonce une mutation. Et la mutation que l'on voit, et c'est là où je voulais en venir, c'est une mutation de maquette. Alors la maquette, tout le monde sait ce que c'est une représentation en trois dimensions d'un bâtiment, dans le cas de maquette d'architecture, ou d'un ensemble de bâtiments, qui seront faits avec des matériaux carton, bois, plus ou moins réalistes, et qui évidemment demandent du temps d'élaboration et quelque chose qui est relativement parlant. Donc, je vous disais que sur les réseaux, on voit de plus en plus arriver aujourd'hui des maquettes. Alors, ça arrive dans les écoles d'architecture, donc les différentes écoles d'architecture exhibent le matériel maquette produit par les étudiants, et aussi, on voit les professionnels qui montent de très grandes maquettes, très, très élaborées, et ça paraît un mode de représentation qui était tout à fait intéressant. Mais la question qui est posée, est-ce que cela n'est pas aussi un leurre d'une certaine manière, de la même manière que les images de l'intelligence artificielle peuvent être des leurres? Parce que la distance qu'il y a entre la réalité et sa représentation, qu'elle soit volumétrique avec la maquette, que graphique à travers les images, est souvent bien loin de la réalité. Donc aujourd'hui, il est vrai que les projets architecturaux sont souvent spectaculaires, les photographies sont magnifiques, le matériel numérique permet... Alors là aussi, on peut permettre des trucages, on peut enlever des tâches, on peut aussi allonger des bâtiments qui ne l'étaient pas. Donc on se trouve avec un monde virtuel qui est le monde de l'architecture, attendu que l'architecture, c'est l'inverse du virtuel. C'est tout ce qu'il y a de plus matériel, mais on peut dire que la communication de l'architecture est essentiellement virtuelle. Et ça, c'est, je veux dire, quelque chose dont j'ai déjà parlé. Mais c'est une modification du métier qui me paraît extrêmement néfaste. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que l'architecte est devenu une espèce de fabricant d'images et qui supplante la réalité que les gens vivent. Donc, quand il y a ces images sur les réseaux, c'est ce dont je parlais, on a des qualificatifs du genre « c'est sublime, c'est génial ». Évidemment, les superlatifs sont toujours augmentatifs et rarement critiques d'ailleurs, c'est-à-dire la perte de l'esprit critique. Et on peut avoir des choses qui sont tout à fait, on peut dire, médiocres dans la réalité, mais qui apparaissent et qui ont une vie à travers les réseaux. Alors, ce qui est plus grave, c'est les architectes qui arrivent à avoir une notoriété à travers des images de bâtiments qu'en fait que quasiment personne ne voit, parce que on ne va pas au Qatar voir les musées tous les jours, et la notoriété se faisant sur des bâtiments, on peut dire exotiques au sens propre du terme, on en oublie la réalité du métier, qui est la vie des gens et ce qui nous concerne à tous, en premier le logement et puis en second les bâtiments dans lesquels nous travaillons, les bâtiments dans lesquels nous allons au cours de notre journée, de notre semaine, de notre vie, dans les commerces, les différents bâtiments qui peuvent être de sport, de loisirs, encore une fois de travail, mais aussi de santé, ou des bâtiments universitaires et scolaires. Donc, ces bâtiments ont un peu disparu des réseaux, puisqu'on a cette surenchère des images, avec effectivement ce qui apparaît aujourd'hui comme le mérite ultime pour les architectes, on peut dire mondialisés, qu'on appelle les star-architectes, c'est le prix Pritzker, et tout le monde accole à ce prix Pritzker, qui est un prix US, américain, le Nobel de l'architecture. Bon, alors, déjà, ça ne veut rien dire, le Nobel de l'architecture, parce que il faut rappeler que le prix Nobel est un prix qui est donné essentiellement pour les sciences. Alors c'est vrai qu'il y a eu un prix Nobel de littérature, mais enfin bon, quand on sait que Bob Dylan et Annie Ernaux ont été nobelisés pour cela, mais ce qui est beaucoup plus, on peut dire, objectif, c'est les prix scientifiques de physique, de biologie, de médecine, etc. Puisque là, ce sont des avancées qui sont indéniables. C'est-à-dire, il y a un avant et un après l'inventeur et qui font avancer la science. Et donc là, on est sur des prix qui sont objectivables. Alors, quand il concerne le domaine de la littérature, puisque c'est le seul prix qui soit, on peut dire, artistique, mais l'appliquer après à le Nobel de l'architecture, le Nobel de la peinture, etc., tout ça me semble bien excessif, puisqu'en fait, on n'a pas d'éléments de comparaison, on n'a pas d'éléments d'échelle de valeur, si ce n'est, encore une fois, les images, les maquettes, tout ce que l'on trouve sur les réseaux et dont je viens de parler. Donc, la question, c'est que on peut être aussi dans un très grand enfumage qui est loin de la réalité que l'on voit, avec cet enthousiasme des réseaux pour des choses extravagantes, des formes que on ne sait pas si elles sont construites, si elles peuvent être construites, combien elles ont coûté, si elles sont utiles, et notamment pour des bâtiments, comme je vous disais, pour les Émirats, des bâtiments qui vont être des musées et dont l'utilité, je ne dis pas qu'un musée n'est pas utile, mais enfin, on peut dire de l'extravagance et les formes du musée n'est peut-être pas la finalité d'un musée qui doit être un élément de conservation d'objets d'art. Alors, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, mais je voulais passer à la seconde partie de mon propos. J'ai parlé des maquettes, et comme je vous avais dit, l'émission s'intitule « Maquettes et jouets ». On va faire une pause musicale et je vais reprendre sur le thème du jouet, qui va être lié évidemment à cette première partie. L'architecture jouée. Donc, vous allez dire, on sait, après les maquettes, ce sont les jouets, il y a un côté, on peut dire, évolutif, négatif dans mon propos. Et on peut dire que l'architecture jouée, il y a quelques exemples dans l'architecture ancienne, il y avait... Bon, des jeux avec des fantaisies, les architectes révolutionnaires, le Doux, le Queux, avaient fait des une maison de plaisir en forme de phallus, mais tout ça c'était un peu de la plaisanterie et pas très sérieux, tandis que là aujourd'hui on construit des bâtiments avec cette logique qui me paraît être évidemment quelque chose de navrant, où l'architecture perd de son sérieux, de son utilité, comme je vous disais, par rapport aux bâtiments qui, dans lesquels on vit, et quelque chose qui est un jeu hors de la réalité du monde, hors de la réalité des sociétés. Et les exemples ne manquent pas du discours que j'appelle infantile et de l'architecture jouée. Alors il y en a un qui était connu et qui est revenu dans l'actualité récente il y a quelques semaines. C'est la grande bibliothèque François Mitterrand. Alors, cette grande bibliothèque avait été choisie par le président Mitterrand et le projet du jeune architecte à l'époque, Dominique Perrault, était quatre livres ouverts et au milieu, il y avait un morceau de forêt. Alors, c'est-à-dire, on avait le symbole... ce n'est pas un symbole, c'est une mimésie, c'est-à-dire la bibliothèque en forme de livre, c'est tout de même pas du niveau de symbole, c'est du niveau du conte d'enfant où dans les contes d'enfant, les cordonniers, ils habitent dans une maison en forme de chaussures, etc. Enfin, c'est les contes d'enfant, mais les enfants d'ailleurs sont pas infantiles parce que ils ne prennent pas ça au sérieux, ils prennent ça toujours avec la distance et l'humour du second degré. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on est au-delà de l'infantile, c'est-à-dire en fait on y croit, puisqu'on fait une bibliothèque avec quatre livres ouverts dans les angles, sachant que les livres d'une bibliothèque, il faut qu'ils soient protégés et que les quatre livres ouverts, pour avoir du reflet et une matière agréable, c'est en verre. Alors l'architecte à l'époque avait dit on les fera en verre polarisant. Alors le verre polarisant, quand j'avais été très surpris parce que j'avais des lunettes en verre polarisant, mais enfin, au-delà des lunettes, j'avais jamais vu au-delà de quelques centimètres. Et il a gagné le concours avec une blague de cette sorte. Bien sûr, ça n'existait pas à l'époque, ça n'existe toujours pas des verres, on peut dire des façades entières qui vont sous la lumière du soleil foncer et protéger l'intérieur. Donc, les bâtiments sont en verre et on a fait à l'intérieur pour protéger les livres, d'une part de la climatisation et des volets en bois pour le rayonnement solaire, ce qui est évidemment l'absurdité totale. Mais pour revenir à l'actualité, ce que je vous disais à l'instant, c'est que ce bâtiment, qui est quand même pas très ancien, ce bâtiment aujourd'hui il va être fermé, ou du moins il y a un projet pour le fermer, parce que il y a un budget de 500 millions à 1 milliard d'euros pour le réhabiliter, parce qu'il est en très mauvais état. Alors là, c'est une question dont on a parlé souvent, et là où l'infantile devient sérieux, c'est-à-dire qu'à force de faire des choses infantiles, on a les finances publiques qui sont flinguées par ces choix ubuesques, par ces choix tout à fait ridicules, et les exemples ne manquent pas. Alors, plus récemment, on a un architecte qui est lui par contre un architecte âgé et qui a fait des réalisations importantes. C'est Normand Foster qui a été anobli par la reine. Et Normand Foster fait un musée, je crois que c'est au Qatar, mais en tout cas dans cette région du Moyen-Orient. Et il fait un musée avec des ailes d'épervier. Les ailes d'épervier, vous allez vite comprendre, parce que le grand-père de l'émir ou je sais pas quoi, il avait des éperviers, et donc on fait un musée avec des immenses pointes inutiles, et là vraiment on est dans l'histoire du cordonnier et de la chaussure dont je vous parlais. Donc aujourd'hui, avec le plus grand sérieux, on fait des bâtiments, des architectures parlantes, et tout le monde est satisfait de cela. Alors, plus près de nous en distance, Madame Carole Delga, présidente de la région autrefois Midi-Pyrénées et aujourd'hui Occitanie, avait proposé de faire une maison de rugby, et elle avait dit: il faudrait faire un concours d'architectes où les architectes feraient une maison de rugby en forme de ballon de rugby. Alors, la contradiction, c'est qu'on va faire un concours en disant ce qu'il faut faire, ce qui est déjà assez ridicule, mais évidemment, l'histoire du ballon de la maison de, dans le ballon de rugby, on est encore une fois dans Luna Park, dans, le, dans Disneyland, et, ou, comme je vous disais, dans les contes d'enfants. Tout ça est, est assez navrant. Et ce qui serait bien, c'est que l'architecte l'architecture retrouve un peu de sérieux et regarde les coûts d'entretien, parce qu'il semblerait que après Beaubourg, qui est fermé 5 ans pour, essai, pour réfection, j'ai parlé du scandale des Augustins qui a été fermé 7 ans pour les travaux qui ne sont toujours pas terminés. Enfin, il faut rappeler que les bâtiments dans les temps anciens, dans lesquels il n'y avait pas la, la mécanisation, ont été faits dans des temps très très courts. Et je lisais récemment que l'Empire State Building, Empire State Building, pour avoir la prononciation adéquate, qui a été pendant, je crois, de, plusieurs décennies, et ça n'est le bâtiment, si ce n'est le plus haut de New York, mais en tout cas le plus haut du monde, ça a été après dépassé par les bâtiments justement des Émirats. Donc l'Empire State Building a été construit, tenez-vous bien, en 15 mois. 15 mois, c'est-à-dire un peu plus de l'an. Et le bâtiment, si vous avez le bonheur de le visiter, c'est un bâtiment avec des détails 1920-1930, les ascenseurs sont ajourés et la visite est autorisée. On peut monter sur la partie haute où on a une vue extraordinaire sur Central Park, et c'est un bâtiment dans lequel il y a une finition extraordinaire, et ce bâtiment n'a jamais fermé depuis qu'il a été bâti avant-guerre. Et donc, je ne vois pas où est le progrès aujourd'hui d'une époque qui s'enorgueille d'être une époque de grande technologie et de grande maîtrise de technologie, puisque la technologie, elle est basée sur les, pour fabriquer des images de fiction, mais elle est incapable de faire des, de ce qui est notre quotidien, c'est-à-dire des bâtiments qui tiennent dans le temps et qui sont satisfaisants pour les besoins de la population. Donc c'est une conclusion un peu triste que je fais, mais il faut appeler les choses par leur nom, et on va terminer sur cette note pessimiste. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Je remercie l'excellent Sacha, toujours à la technique.